Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et tous, nous accueillons aujourd'hui Christophe Minck, juriste et sociologue belge, directeur du département de criminologie de l'Institut national belge de criminalistique et de criminologie. Vous êtes notamment auteur du livre « La société sans répit, la mobilité comme injonction » que vous avez coécrit avec Bertrand Montulet. Bonjour Christophe.
Bonjour Marie.
Alors Christophe, nous aimerions parler avec vous de cette crise que nous traversons aujourd'hui, qui est une crise sanitaire mais également une crise de nos mobilités. Dans une interview donnée au Centre d'action laïque belge, vous nous invitez à profiter de cette crise pour repenser notre système de mobilité. Alors, d'après vous, qu'est-ce que cette crise nous dit du système de mobilité actuel ?
Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon sens, on est dans un système actuellement dans lequel la mobilité est pensée par nos sociétés comme un bien en soi. Ça veut dire qu'elle est considérée comme nécessairement bonne quelque part. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, mais aujourd'hui, nous valorisons énormément le fait d'être mobile. Alors, entendons-nous tout de suite, cette mobilité n'est pas nécessairement une mobilité physique, matérielle. Bien sûr, ça peut être une mobilité physique. Par exemple, on est encouragé à aller chercher du boulot ailleurs, à l'étranger, loin de chez nous, à voyager dans le monde pour apprendre, pour nous cultiver, etc. On est encouragé à partir en Erasmus, par exemple, quand on est étudiant, etc., etc. Donc, on voit bien que nous valorisons très fort la mobilité, les objets qui nous permettent aussi la mobilité, mais nous sommes aussi encouragés à avoir une mobilité qu'on pourrait dire non physique ou non matérielle. Par exemple, à changer de boulot, à changer d'orientation professionnelle, à nous former tout au long de la vie, par exemple, à nous adapter. Par exemple, la thématique de l'adaptation est récurrente. Le monde bouge, vous devez bouger, il faut le suivre, il faut courir derrière lui. Mais quand on dit le monde bouge, c'est pas parce que la Terre tourne autour du Soleil, bien entendu. C'est parce qu'en fait, nous valorisons un processus de changement continu et nous valorisons le fait de courir après ce changement. Et donc, en fait, quelque part, aujourd'hui, nous sommes soumis, mais nous avons aussi construit et nous participons à ce que j'appelle un idéal mobilitaire, c'est-à-dire une valorisation de la mobilité pour elle-même. Et on pourrait la résumer en quatre impératifs, si vous voulez. Le premier, ça serait l'impératif d'activité, c'est-à-dire il ne faut pas avoir de cesse. On ne peut pas prendre de repos, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas cesser de bouger. Le deuxième serait l'activation, c'est-à-dire que non seulement on doit bouger en permanence, mais en plus, ce mouvement ne doit pas être un mouvement mécanique, un mouvement stéréotypique. Ça doit être un mouvement que nous voulons, que nous mettons en œuvre. Nous devons être autonomes, pleins d'initiatives, proactifs, comme on adore dire aujourd'hui. Le troisième principe, ça serait le principe de participation. C'est-à-dire que, ok, vous devez être en permanence en activité, vous devez vous activer, mais en plus, vous devez surtout vous activer en participant à des projets collectifs. Par exemple, toute la thématique du management participatif, de la pédagogie participative, de la justice participative, de la démocratie participative, etc., etc., ça montre, en fait, si vous voulez, quelque chose que Boltanski et Capello avaient décrit dans l'idée d'une cité par projet, à savoir le fait que nous sommes invités à faire des projets multiples, parallèles, et à, quelque part, rebondir d'un projet à l'autre. Donc, l'individu conforme aujourd'hui est un individu bondissant ou rebondissant qui est capable, par exemple, de perdre son travail, d'aller dans une société de reclassement de personnes licenciées où on va lui dire, mais en fait, finalement, un licenciement est une magnifique opportunité. Une magnifique opportunité de rebondir, de faire un nouveau projet, etc. C'est la même chose d'un divorce, c'est la même chose d'un échec quelconque, si vous voulez. Donc, activité, activation, participation. Le quatrième impératif, c'est l'adaptation. Puisque nous sommes actifs en permanence, que nous devons nous activer, mais que nous devons sauter d'un projet à l'autre, eh bien, nous devons être en adaptation permanente. C'est-à-dire que nous devons nous adapter pour passer de notre projet familial à notre projet professionnel, puis à notre projet personnel, mais nous devons aussi être adaptatifs entre différents projets professionnels. Typique, par exemple, de ce cas de figure, le demandeur d'emploi à qui on dit, mais en fait, il n'y a pas de demande dans votre secteur, donc maintenant, il va falloir changer de secteur. Vous devez vous former, vous devez changer, vous devez trouver, par exemple, un secteur en pénurie, en priant, évidemment, pour que le temps de la formation ne soit pas suffisant pour que le secteur ne soit plus en pénurie, bien entendu. Mais donc, voilà, quelque part, un cadre très lâchement tracé, un cadre dans lequel la mobilité est une valeur en soi, ce qui nous amène évidemment à la considérer comme uniquement une opportunité et à en nier les coûts quelque part.
Et alors, de quel coût est-ce que vous parlez?
Alors, les coûts, ils sont multiples. D'abord, on peut se rendre compte aujourd'hui que, puisque c'est de là qu'on est parti, hein, que l'actuelle pandémie est un des coûts de notre mobilité. Non pas que notre mobilité a inventé le virus, bien entendu, mais par contre, notre mobilité et nos modes de mobilité peuvent contribuer à répandre à une vitesse inédite de nouveaux agents pathogènes, et donc à transformer des épidémies locales ou qui se seraient développées extrêmement lentement en des pandémies fulgurantes qui, en quelques mois, envahissent le monde entier. Donc, elles ont ce coût-là, mais elles ont aussi, par exemple, un coût environnemental considérable dont on parle maintenant depuis longtemps, sans pourtant faire ce qu'on devrait faire pour le diminuer. Mais, par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, nos mobilités au sens physique ont un coût gigantesque, mais aussi nos mobilités qu'on appelle souvent virtuelles, je n'aime pas tellement ce mot, mais enfin, qui sont par exemple nos capacités à accéder à des données dans le monde entier, eh bien l'impact écologique du numérique, par exemple, est considérable. Ça aussi, c'est un coût, bien entendu. Mais alors, on devrait parler aussi évidemment des coûts humains. Le coût humain du changement permanent, de cette impossibilité à s'arrêter, c'est évidemment l'épidémie, pourrait-on dire, de burn-out, d'épuisement, les pertes de sens, etc. Dans le monde du travail, c'est quelque chose qui se constate de manière très claire. Les gens n'en peuvent plus, les gens sont à bout. Et ça aussi, c'est un coût de la mobilité. C'est-à-dire que quand vous devez changer de boulot de manière régulière, sans jamais savoir quand vous pourrez conquérir un petit peu de stabilité, quand dans votre boulot, on vous fait passer d'un projet à l'autre en permanence, eh bien, il y a un moment où, eh bien, simplement, vous vous effondrez. On pourrait aussi, à côté de ça, de la question d'identification des coûts, s'interroger sur la répartition des coûts. Parce que le tout n'est pas de dire « Ah, ben, finalement, la mobilité, c'est un coût ». La question, c'est aussi de savoir qui paye le prix de ces mobilités. Or, par exemple, chacun ne choisit pas ses mobilités. Certains sont contraints à des mobilités qui leur sont défavorables. Reprenons l'exemple du chômeur, par exemple. Si on lui dit, ben voilà, il n'y a pas de boulot tout près de chez toi, tu n'as pas de voiture, mais c'est pas très grave. Tu vas prendre deux bus, ça te fera 1h30 de trajet pour aller faire un mi-temps mal payé dans un supermarché. Et c'est ça où on te coupe tes allocations. Eh bien, ce chômeur va faire 3 heures de bus par jour pour aller prester un travail finalement fort peu épanouissant et fort peu rémunérateur. Il sera donc un grand mobile quelque part, hein, selon les critères qu'on utilise. Généralement, c'est plus de 2 heures de trajet par jour. Mais il n'a rien choisi et il ne développe pas une mobilité qu'il ressent comme une ressource formidable pour s'épanouir. On pourrait dire de la même manière, ceux qui sont ballottés d'un poste à l'autre dans une entreprise, à qui on demande une polyvalence extrême, etc., ceux-là aussi payent un coût énorme pour leur mobilité, alors que ce ne sont pas des mobilités qui leur rapportent des choses formidables. Alors qu'à côté de ça, évidemment, d'autres personnes choisissent leur mobilité, par exemple les cadres supérieurs, les gens qui ont les moyens de dire « tiens, je passerai bien une semaine aux Bahamas parce que ça va me faire du bien pour me ressourcer », ou ceux qui vont pouvoir décider quelque part des entreprises dans lesquelles ils vont aller travailler parce que eux sont demandés par des chasseurs de têtes, etc. Par ailleurs, on pourrait à côté de ça encore dire que certains voient leur mobilité valorisée. Par exemple, le cadre supérieur qui, une fois par mois, se rend au siège central de sa multinationale en Californie, sera valorisé. C'est formidable. Oh, tu vas tous les mois en Californie, c'est génial. Et comment c'est Los Angeles, etc. C'est prestigieux. C'est quelque chose qui est socialement valorisable. Par contre, le chômeur dont je parlais tout à l'heure, forcément, va pas pouvoir se glorifier d'avoir pris le bus 3 heures par jour pendant un mois le mois dernier. Pourtant, ça lui a certainement coûté beaucoup plus qu'au cadre supérieur. Or, la valorisation sociale des mobilités est aussi quelque chose d'important. Par exemple, la mère de famille qui veut sacrifier à l'idéal mobilitaire, qui inscrit ses enfants à de multiples cours, activités extrascolaires, etc., et qui passe finalement un temps considérable sur sa semaine en mobilité pour véhiculer ses enfants d'un point à l'autre, ne sera pas reconnue comme une grande mobile, n'aura pas de gratification sociale dans ce cadre-là. Et enfin, le dernier point qu'on pourrait peut-être mettre en lumière, c'est le fait que certains voient leurs immobilités stigmatisées et d'autres pas. Si on reprend le cas du chômeur, le chômeur, quel est le discours qu'on porte sur lui, sur le chômeur, pris comme une sorte d'archétype? Eh bien, le chômeur, c'est celui qui est incapable d'adaptation, qui ne sait pas se lever le matin, qui n'a pas d'horaire, qui n'a pas de rigueur, qui n'est pas actif, qui est dans son canapé quelque part, en train de regarder son écran plat, etc., etc. Donc on a toute cette image véhiculée, dont nous savons tous quelque part qu'elle est absolument fausse, mais qui est une stigmatisation d'une immobilité réelle ou supposée. Alors que d'autres, qui sont tout aussi mobiles, ne sont pas du tout stigmatisés. Prenons les rentiers, par exemple. Les rentiers participent d'une immobilité absolue du capital. Généralement, ils ont des placements qui ne sont pas des grands placements de capital à risque, etc. Mais personne ne se demande ce qu'ils font de leur journée. Personne ne se demande d'où leur vient leur patrimoine, ni où il ira ensuite. Et donc, quelque part, on voit aussi que se posent là d'autres questions, qui sont des questions de coûts, bien entendu, quels sont-ils, mais aussi de qui supporte ces coûts et de comment ces coûts se donnent à voir, quelque part, lorsqu'ils pèsent sur les épaules des individus.
Donc, vous nous présentez finalement une mobilité qui est à la fois facteur et marqueur d'inégalité sociale. Alors, si on revient à la mobilité plutôt physique, on l'a donc longtemps présentée comme étant facteur de liberté, et on a donc cherché à instaurer un droit à la mobilité pour tous. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce droit à la mobilité pour tous aujourd'hui ?
Alors, le droit à la mobilité, quelque part, très logiquement, dans une société qui précède la nôtre, on va dire avant la fin des années 60, dans cette société-là, où les gens sont quelque part enfermés dans des jeux de frontières extrêmement imperméables. Par exemple, à l'époque, on ne voyage pas entre la France et la Belgique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'habite à 30 km de la frontière. Quand je prends ma voiture et que je vais en France, je ne remarque même plus la frontière, sauf qu'il y a une statue à la frontière, mais enfin, c'est tout. Pendant un temps, il restait des ruines de guérites de douaniers, mais il n'y en a même plus. Donc, quelque part, pendant longtemps, on a été enfermés dans des jeux de frontières. Et le droit à la mobilité est évidemment lié à une revendication, celle d'accéder à ce qui était une ressource pour s'affranchir de contraintes, permettre de se libérer d'un État qui nous opprime, ou simplement d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais aussi se libérer d'un employeur qu'on veut quitter parce qu'on pense qu'on sera mieux traité ou mieux payé ailleurs, ou se libérer, par exemple, d'un conjoint dans une famille dans laquelle, quelque part, on est enfermé et où, quelque part, on étouffe. C'est aussi une des grandes revendications, par exemple, du féminisme, celui du droit de reconsidérer ses attaches familiales. Tout ça, ça fait partie d'un droit à la mobilité, quelque part. On peut le lire comme ça. Or, ce droit à la mobilité, on le voit, repose sur l'idée que la mobilité est une ressource à laquelle on a le droit d'avoir accès. C'est très bien. Et pour moi, il n'y a aucune raison de nier le caractère de ressource de la mobilité. Par contre, si on reste pris par la logique de l'idéal mobilitaire, on ne va voir que cet aspect ressource. C'est-à-dire qu'on ne peut s'imaginer que nous libérer par la mobilité et on ne peut pas s'imaginer nous libérer de la mobilité. Si la mobilité est un bien en soi, qui pourrait vouloir s'en affranchir? Or, je pense que si la question de l'accès égale à la ressource mobilité est pertinente, elle doit se doubler d'une autre question, qui est la question de la juste répartition de sa charge en tant que coût. Donc, il faudrait, à mon sens, penser à côté du droit à la mobilité, à un droit à sortir du flux, à nous arrêter, à refuser le mouvement. Et là, il y a sans doute un enjeu fondamental. Décider de ses mobilités pour ne pas vivre une mobilité qui serait aliénante et hétéronome, parce que paradoxalement, l'idéal mobilitaire qui repose sur une valorisation de l'autonomie nous mène souvent à une mobilité qui est hétéronome et donc qui est tout à fait le contraire de l'autonomie. Et donc, quelque part, le défi, ça serait de réussir à penser ces deux pôles, à la fois se libérer par la mobilité et se libérer de la mobilité.
Finalement, quel nouveau modèle de mobilité est-ce qu'on devrait développer ?
Alors ça, c'est une question qui est évidemment immense. Bon, si on parle uniquement du point de vue dans lequel je peux avoir une certaine pertinence, c'est pas moi qui vais vous dire, il faudrait mettre plus de bus ou plus de trains, hein, c'est pas mon domaine. Mais donc, à mon sens, la mobilité à développer, elle dépend moins des modes de transport en tant que tels ou des modes de changement au sein de la société, parce que, à mon sens, la mobilité n'est pas nécessairement matérielle. Je pense que la première étape, ça serait de réfléchir à notre rapport normatif à la mobilité. C'est ce que je vous ai expliqué. Pourquoi est-ce qu'on considère que la mobilité est un bien en soi, que comme elle est un bien en soi, elle est obligatoire? Pourquoi est-ce que nous courons après cette mobilité, quelque part? Et donc, je pense que deux évolutions sont souhaitables dans ce cadre-là. La première, ça serait une prise de conscience des coûts de la mobilité. Donc, c'est-à-dire simplement reconnaître socialement qu'un discours se développe dans la société, non seulement sur les merveilles de la mobilité, mais aussi sur les horreurs de la mobilité, mais aussi sur ses coûts et sur les questions de justice sociale que ça pose. Et là, ça implique évidemment une politisation de la question. Pas seulement une politisation de la question de savoir si on va mettre plus de bus ou plus de trains, bien entendu, mais une politisation de la question de la mobilité en tant que charge et donc en tant que ressource. Et donc, l'idée serait d'en refaire un objet de lutte. Parce que, quelque part, je ne conçois pas qu'on puisse imaginer une société entièrement pacifiée dans laquelle il n'y aurait pas de lutte. Et je pense qu'ici, il y a un enjeu de lutte. Ça serait la première chose. Mais la deuxième chose, c'est, et ça me semble aussi nécessaire que la première, c'est une prise de conscience de l'intrication des multiples mobilités. C'est-à-dire qu'on, je ne pense pas qu'on puisse penser les déplacements quotidiens, par exemple, sans penser le travail, la façon dont il est organisé, la façon dont les entreprises l'organisent, mais sans penser aussi la famille, l'habitat, etc. C'est-à-dire que, quelque part, notre rapport à la mobilité, il ne commence pas quand on ouvre la porte de notre voiture, quand on enfourche notre vélo, quand on rentre dans notre train, quand on rentre dans notre métro. Il ne commence pas à ce moment-là. Il commence, en fait, déjà quand nous pensons notre rapport à l'espace d'une manière beaucoup plus large. Et si on n'arrive pas, nous, à nous interroger sur les rapports normatifs que nous avons à cet espace, sur ce qui nous oblige tous les matins à être à 9h au boulot, tous les matins à faire les mêmes trajets ou d'autres trajets, etc. Ce qui nous oblige à changer de fonction dans une société, ce qui nous oblige à changer d'emploi, ce qui nous oblige à changer d'habitat, etc., etc. Si on ne pense pas ça, je ne pense pas qu'on puisse vraiment réfléchir à nos mobilités. Parce que finalement, la mobilité, c'est au sens qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire la mobilité physique, les transports, les déplacements, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et donc, la question de la mobilité, pour moi, c'est plutôt la question des mobilités. Il faut réinjecter et du sens et du politique dans la question. Et il faut quitter une approche exclusivement organisationnelle ou logistique de celle-ci, même si ces questions-là, évidemment, sont des éléments de l'équation, bien entendu.
Alors, du coup, pour conclure cette émission, qu'est-ce que l'expérience actuelle de confinement et d'immobilité forcée qu'on rencontre aujourd'hui, de quelle manière est-ce que cette expérience peut nous amener à avancer sur cette situation que vous appelez de vos voeux ?
Alors moi, il y a deux choses qui me frappent dans la situation actuelle. D'une part, ce sont les appels au déconfinement le plus rapide possible, tout ce qui s'exprime, qui est de l'ordre de « notre monde va s'écrouler, nous perdons trop d'argent, on ne tiendra jamais, etc. Vous ne comprenez pas les mouvements, la mobilité, etc. » C'est absolument nécessaire à notre survie, à la croissance, au dynamisme de notre économie dans un contexte concurrentiel, etc. Ça, c'est un premier discours qu'on entend beaucoup et qui me semble très, très fort lié à l'idéal mobilitaire. C'est quelque part la répétition de ce qu'on entend déjà partout, à savoir, il faut bouger, sinon on meurt. Donc, quelque part, là s'exprime une angoisse qui, par ailleurs, peut être parfaitement fondée dans une société qui est fondée sur ce principe de la mobilité. Il est logique que immobiliser tout pose un problème, évidemment. Donc, cette angoisse, elle signe, à mon sens, la difficulté à penser une société dans laquelle la place de la mobilité serait reconsidérée. Mais à côté de ça, ce que je vois aussi, ce sont des gens qui disent leur bonheur d'être confinés. Pas parce qu'ils sont heureux de ne plus aller manger le dimanche chez leur belle-mère, bien entendu, mais plutôt parce que tout d'un coup, s'arrête le rythme. Et que tout d'un coup, tout un ensemble de contraintes qui pèsent sur eux en termes de mobilité, en termes d'activité constante, etc., s'allège. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'une gigantesque expérience sociale, qui serait vraiment dommage d'oublier en disant « Mon Dieu, ça c'était un épisode de pandémie, beaucoup de gens sont morts, c'est un grand malheur, n'y pensons plus ». Je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, bien entendu, a un côté extrêmement tragique, mais a aussi sans doute quelque chose qui est extrêmement révélateur de ce dont nous avons besoin. Par exemple, pour ne parler que de moi, je suis très heureux d'avoir un agenda qui s'est résolument éclairci. Et par exemple, j'ai été contacté par des gens, par exemple par vous, qui voulaient s'entretenir avec moi de la mobilité, et on a pu prendre du temps pour réfléchir ensemble, et on a pu faire autre chose que la course en avant permanente des réunions. Et donc, quelque part là-dedans, la rupture du rythme, qui normalement est interdite, évidemment, dans l'idéal mobilitaire, cette rupture du rythme en elle-même me semble très intéressante. Et donc, je pense qu'il serait vraiment dommage de tourner la page en disant « vite, vite, retournons au monde d'avant ». Alors, tout le monde crie « il faut un nouveau monde », mais j'entends aussi qu'il y en a qui disent qu'il faut un nouveau monde dans lequel on supprimerait les congés pour pouvoir relancer plus vite l'économie. Donc, la question est de savoir quel nouveau monde on veut, et il n'est pas du tout certain qu'il soit fondé sur une remise en cause de l'idéal mobilitaire. Mais pourtant, je pense qu'ici, on est en train de vivre quelque chose comme une levée de la contrainte qui peut nous faire entrevoir des choses qu'on aurait peut-être du mal à voir dans d'autres circonstances.
Merci beaucoup, Christophe Menck. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue et juriste, directeur du département de criminologie de l'Institut national belge de criminalistique et de criminologie.
Merci beaucoup.
Au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.